Laudetur Jesus Christus.
Chaque jour, le quotidien des Gazaouis s'assombrit. Dans une démarche inédite, une centaine d'ONG s'allient pour alerter sur la famine de masse en cours, aggravée, nous l'entendrons, par la destruction du système de santé palestinien. Les inquiétudes de la communauté alaouite en Syrie, 7 mois après la chute du régime de Bachar al-Assad, reportage à suivre. L'Allemagne reprend les expulsions vers l'Afghanistan et des représentants de l'administration talibane se sont installés en Allemagne. Et puis enfin, 15%, ce sont finalement les droits de douane que devra payer le Japon aux États-Unis, et cela d'ici le 1er août.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. Une famine de masse se propage à Gaza. C'est l'alerte lancée par une centaine d'ONG, dont Médecins Sans Frontières, Amnesty International ou encore Oxfam. Ces organisations non gouvernementales appellent à cesser le feu immédiat dans l'enclave palestinienne où les bombardements israéliens se poursuivent au quotidien. La population gazaoui souffre de la faim et n'a plus accès aux soins. Parmi les signataires de cette alerte, Médecins du Monde, présents encore dans l'enclave palestinienne, Elena Ranchal est directrice des opérations internationales chez Médecins du Monde. Elle nous parle d'un système de santé complètement détruit.
Il y a énormément de structures qui ne sont pas opérationnelles parce qu'ils ont été ciblés, parce qu'il n'y a pas de personnel, parce qu'il n'y a pas de matériel. Nous, par exemple, on a 6 cliniques. C'est 6 cliniques, mais on fait chaque jour. Ça change. Il y a des jours qu'il y en a 3, des jours qu'il y en a 4, des jours qu'il y en a 5, parce qu'en fait, les conditions sécuritaires sont tellement volatiles, il y a des jours qu'on ne peut pas ouvrir. Et ça fait qu'on a des files, des nombres de consultations qui dépassent toutes les capacités. Les cliniques fonctionnent avec des créneaux horaires assez larges et quand on ouvre le matin à première heure, on a des files d'attente incroyables des gens qui viennent, un, pour se soigner et deux, certains, ils viennent pour pouvoir récupérer des compléments alimentaires vu que la situation alimentaire est tellement compliquée. Il y a des tonnes de médicaments qui sont en train de se périmer à l'extérieur. Ça veut dire à quelques kilomètres, vraiment, ils sont à la frontière. Ils sont en train de se périmer parce qu'on ne peut pas les faire entrer. Jusqu'à maintenant, c'est WHO, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui gère les stocks. Mais ils ont été ciblés, attaqués et détruits cette semaine. De façon qu'on n'a pas personnel. On ne peut pas faire entrer les choses. Les choses qui étaient à l'intérieur doivent être détruites. Il y a un moment, on ne peut pas soigner qu'avec la parole.
Des propos recueillis par Alexandra Sirgan. En Syrie, un rapport d'enquête publié cette semaine documente les massacres perpétrés en mars contre des civils alaouites. Plus de 1400 morts dans plusieurs localités de la côte, selon la Commission nationale. 7 mois après la chute du régime de Bachar al-Assad, sa propre communauté, longtemps associée au pouvoir, se dit abandonnée. À Damas, certaines femmes alaouites, jointes par téléphone et dont nous avons modifié les noms, acceptent de témoigner malgré la peur. Le reportage de Mohamed Erami.
Leïla, 28 ans, vit à Damas. Elle a passé des jours sans nouvelles de sa famille sur la côte en mars dernier. Depuis, elle tente de reprendre une vie normale sans vraiment y croire.
Moi, ma famille vit sur la côte. Franchement, j'ai eu tellement peur. Je n'arrêtais pas de les appeler pour avoir des nouvelles. Heureusement, au bout de quelques jours, les massacres ont cessé. J'ai essayé d'oublier. Mais aujourd'hui, même ici à Damas, je ne me sens plus en sécurité, même si je déménage ailleurs en Syrie.
Sarah, elle, ne veut pas oublier. Ce qui s'est passé en mars, elle le qualifie de crime confessionnel et elle accuse les autorités de laisser faire.
Il faut absolument que les personnes qui ont commis ces crimes et dont on a les preuves avec les vidéos par exemple, soient jugées. Ils ont commis des crimes passionnels. Les autorités savent qui a fait quoi. Si elles voulaient, elles pourraient les poursuivre, mais ça n'arrivera jamais. Donc ça ne sera jamais réglé.
À Damas, ces femmes parlent à voix basse. Elles ne croient pas en une justice impartiale et redoutent que ce rapport ne soit qu'un constat de plus, sans conséquence. Dans une Syrie à vif, elles craignent que le cycle de la vengeance ne fasse que commencer.
Un reportage de Mohamed Zerami. Une délégation russe finalement en route vers Istanbul pour des négociations directes avec l'Ukraine. Elles devraient avoir lieu dans la soirée, mais le Kremlin dit s'attendre à des discussions très compliquées. L'Allemagne a repris les expulsions vers l'Afghanistan. Un avion a été affrété la semaine dernière et depuis, deux représentants de l'administration afghane sont même arrivés en Allemagne pour pouvoir traiter spécifiquement ce genre de dossier. L'affaire reste polémique en Allemagne. Cela est-il une reconnaissance des autorités talibanes? Les précisions depuis Berlin de Delphine Nerbollier.
Deux représentants de l'administration afghane sont arrivés ce week-end. Ils travailleront dans les locaux de l'ambassade à Berlin et du consulat à Bonn. Leur mission, coordonner les futures expulsions de citoyens afghans condamnés en Allemagne. À l'image de celle de la semaine dernière, vendredi, 81 personnes ont été renvoyées vers ce pays. Tous des criminels jugés par des tribunaux allemands. Le nouveau chancelier de droite, Friedrich Merz, a fait des expulsions de criminels une priorité, que cela soit vers l'Afghanistan ou la Syrie, lui qui mène une politique migratoire et sécuritaire plus stricte. Le vol pour Kaboul de la semaine dernière ne devrait donc pas être le dernier. En autorisant la venue de ces deux représentants de l'administration afghane, Berlin facilite donc les futures expulsions menées à ce stade via le soutien d'un pays tiers, le Qatar. Mais beaucoup ici se demandent si l'arrivée de ces deux personnes n'est pas une première étape vers une reconnaissance du régime taliban. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir en 2021, les relations diplomatiques avec Kaboul sont coupées. Le chancelier allemand, lui, l'assure, cela n'a rien à voir avec une reconnaissance du régime, un régime toujours isolé diplomatiquement pour les violations persistantes des droits de l'homme. Berlin, Delphine Nerbollier pour Radio Vatican.
Malgré la signature d'un accord de principe de cessez-le-feu entre la RDC et les groupes du M23 AFC pour aller vers la pacification de la région, dans le Nord Kivu, les combats continuent ces dernières 72 heures, notamment dans les territoires de Massisi et de Rutshuru, combats entre les rebelles du M23 et des milices pro-Kinshasa. Les États-Unis et le Japon signent finalement un accord commercial, cela sera 15% de surtaxe douanière sur les produits japonais entrant aux États-Unis, accord qui devrait entrer en vigueur le 1er août prochain, moins élevé que ce qui était annoncé précédemment par le président américain. Cette surtaxe pourrait néanmoins être un coup dur pour l'économie japonaise qui déjà souffre d'une inflation élevée, comme nous l'explique Guy Bourg de la Motte, professeur de sciences politiques à Nilalco à Paris.
L'économie va tout de même encore assez mal. C'est une économie qui a une inflation maintenant élevée, qui est largement une inflation importée, qui ne reflète pas une dynamique de l'économie. Les salaires augmentent, mais augmentent trop peu. Ils n'augmentent pas dans tous les secteurs. Il y a eu un effort pour augmenter le salaire minimum, mais c'est encore peu. Et bien sûr, il ne faut pas peser sur les entreprises de manière trop importante. La situation économique n'est pas simple. Et de fait, le Japon dépendait toujours beaucoup des exportations et en particulier des exportations automobiles. Et ça, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à revoir dans le modèle économique, étant donné que maintenant, il y a la concurrence chinoise. La Chine est devenue le premier exportateur de voitures, premier producteur de voitures au monde. Et le fait est qu'avec les voitures, les véhicules électriques qui se développent, eh bien, le Japon n'est plus en position de force. Donc, il y a quelque chose à repenser à la fois dans cette économie qui se retrouve dépendante en quelque sorte d'un secteur, le secteur automobile, eh bien, dans le type de véhicule qu'elle propose. Ils avaient bien avancé, ils s'étaient placés en tête avec les véhicules hybrides, mais la poussée des véhicules électriques bénéficie beaucoup à la Chine. Donc là, il y a en effet quelque chose à revoir, mais qui ne dépend pas complètement du Parti libéral-démocrate.
Et toujours au Japon, après l'échec électoral du Premier ministre dimanche dernier, marqué par la montée de l'extrême droite, la démission de Shigeru Ishiba serait attendue aujourd'hui. C'est un avis qui, quoi qu'il en sera historique. La Cour internationale de justice de La Haye, la plus haute juridiction des Nations Unies, va se prononcer sur les obligations légales des États pour freiner les changements climatiques. Concrètement, les juges vont rendre leurs avis sur deux questions. Quelles obligations ont les États en vertu du droit international de protéger la Terre contre les émissions de gaz à effet de serre? Et quelles sont les conséquences juridiques en cas de manquement d'obligation par ces États? Enfin, les funérailles du cardinal André XXIII III, archevêque émérite de Paris, ont été célébrés ce matin en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Au cours d'une cérémonie sobre, comme l'avait souhaité le défunt, Mgr Laurent Ulrich, actuel archevêque de Paris, a rappelé la conviction du cardinal que c'est la manière de vivre des chrétiens qui permettra de changer les choses et de transmettre la parole de Dieu. Merci de votre fidélité. L'actualité revient demain à 8h30. En attendant, vous pouvez nous suivre sur notre site internet. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mercredi après-midi.